Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Sedoudia, bonjour. Éthiopie les appels à la médiation et à la protection des populations civiles du Tigré se faisaient plus pressants mardi à la veille de l'expiration de l'ultimatum donné par le premier ministre Abiy Ahmed aux dirigeants de la région dissidente pour se rendre. Nous y reviendrons dans quelques instants avec Michel Joseph. Au Burkina Faso, le gouvernement a mis en garde mardi contre toute dérive et promis de prendre ses responsabilités pour rétablir l'ordre public. L'opposition a jugé émaillé de fraude le double scrutin présidentiel et législatif de dimanche, menaçant de ne pas en reconnaître les résultats. Nous retrouverons notre correspondant Lamine Traoré en seconde partie de cette édition. En République centrafricaine, des candidats déclarés de l'opposition à la présidentielle de fin décembre ont accusé mardi le président Faustin Archange Touadéra, qui brigue un second mandat, de vouloir les écarter, notamment en faisant invalider leur candidature. 22 personnes ont déposé leur candidature, dont M. Touadéra et l'ancien président François Bozizé. La Cour constitutionnelle doit encore valider ses candidatures avant le 3 décembre. En République démocratique du Congo, la présidence a reporté mardi soir à mercredi la fin des consultations politiques lancées par le président Félix Tshisekedi le 2 novembre pour sortir des tensions politiques au sein de la coalition au pouvoir avec les forces de son prédécesseur Joseph Kabila. RDC toujours, Vital Kamerhe, directeur de cabinet de M. Tshisekedi, est sérieusement malade, ont indiqué mardi un ministre et un proche qui envisage une évacuation vers l'étranger. Condamné en juin à 20 ans de prison pour détournement de fonds publics, M. Kamerhe souffre de problèmes respiratoires après avoir attrapé le COVID-19, d'après l'un de ses proches. L'ONU est très préoccupée par les informations sur les arrestations survenues en Égypte de défenseurs de droits humains, jugeant qu'il ne devrait pas y avoir de prisonniers de conscience au XXIe siècle, a déclaré mardi Stéphane Dujarric, porte-parole de l'organisation. Amnesty International avait dénoncé plus tôt une aggravation de la répression en Égypte contre ses militants. Au moins 4 migrants sont morts mardi lorsqu'une embarcation occupée par une trentaine de personnes a chaviré en face d'une île espagnole, ont rapporté les services d'urgence des Canaries. Ici aux États-Unis, le président élu Joe Biden a proclamé mardi que l'Amérique était de retour, prête à guider le monde en présentant l'équipe expérimentée qu'il a choisie pour mener la diplomatie et la sécurité dans son futur gouvernement. Ce sera tout à l'heure avec Abdourahman Diab. La France a annoncé mardi, à la faveur d'une baisse des contaminations, un allègement gradué des restrictions instaurées contre le COVID-19, espérant même une levée du confinement le 15 décembre, une stratégie des petits pas adoptée par d'autres pays d'Europe occidentale à l'approche de Noël. Ici aux États-Unis, l'immense logistique nécessaire à la distribution de millions de doses du vaccin Pfizer est prête, ont assuré des responsables américains qui prévoient de distribuer 6,4 millions de doses sitôt reçu le feu vert de l'Agence des médicaments, attendu pour dans moins de 3 semaines. L'approche de la fête de Thanksgiving jeudi inquiète cependant les autorités sanitaires. Malgré les appels à rester chez soi, de nombreux Américains se préparent à des retrouvailles familiales. Les aéroports sont remplis comme jamais depuis le début de la pandémie et les files d'attente pour se faire tester sont interminables. En Syrie, l'agence de presse Sana a fait état de ce qu'elle a appelé 2 agressions israéliennes mardi soir dans le sud du pays et près de Damas. Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat. Le Monde aujourd'hui, VOA, Afrique, Washington, D.C. La suite de nos informations. Éthiopie, les appels à la médiation et à la protection des civils se sont multipliés. Ce mercredi est le dernier jour de l'ultimatum lancé par le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed aux dirigeants de la région dissidente du Tigré. Le point avec Michel Joseph.
Abiy Ahmed a lancé dimanche un ultimatum de 72 heures au leader du Front populaire de libération du Tigré. Debretsion Gebremichael, président de la région dissidente, lui répond « Nous sommes prêts à mourir ». Le pouvoir fédéral dit être en mesure de lancer la bataille de Mekele, capitale régionale. La perspective d'un assaut contre cette ville de 500 000 habitants inquiète. Hier, au Conseil de sécurité de l'ONU, Européens et Africains ont étalé leur division. L'Union africaine, dont le siège est à Addis Abeba, a chargé des anciens présidents mozambicains Joaquim Chissano, la libérienne Ellen Johnson Sirleaf et le sud-africain Kgalema Motlanthe d'une médiation. Le gouvernement éthiopien rejette toute discussion avec les dirigeants du Tigré, mais se dit prêt à parler à ses émissaires africains par respect. De leur côté, les États-Unis et la France ont dit soutenir les efforts de l'Union africaine. Paris a également appelé à des mesures de protection des populations civiles. Le conflit a déjà poussé quelques 40 000 habitants du Tigré à se réfugier au Soudan. Pour le moment, aucun bilan précis des combats n'est disponible.
L'ancien président nigérien Tanya Mamadou est décédé ce mardi 24 novembre. L'annonce en a été faite par le gouvernement dans un communiqué. Tanya a dirigé le Niger de 1999 à 2010, quand il a été renversé par un coup d'état militaire à la suite de la modification de la constitution pour briguer un troisième mandat. Notre correspondant au Niger, Abdulrazak Idrissa, nous parle de l'homme.
On n'a peur de rien dans la mesure où on est venu servir le peuple.
Officier supérieur de l'armée nigérienne à la retraite, le colonel Tanja Mamadou faisait partie de la première junte militaire à perpétrer un coup d'État au Niger en 1974. Plusieurs fois ministre, il prendra par la suite la tête du parti État dont il défendra les couleurs aux premières élections démocratiques du pays en 1993. C'est seulement en 1999 qu'il accéda à la magistrature suprême pour y exercer deux mandats successif de 5 ans. Lorsqu'il modifie la constitution pour briguer un autre mandat, il est lui-même renversé par un coup d'État en février 2010. Depuis, il s'est retiré de la scène politique, faisant de rares apparitions publiques. On le savait malade depuis longtemps, jusqu'à cette journée du 24 novembre 2020 où sa mort est annoncée à l'âge de 82 ans. Le gouvernement a décrété un deuil national de 3 jours à sa mémoire.
J'ai grandi dans des règlements militaires. J'ai connu les lois et règlements de mon pays en tant que soldat. Je suis venu à la politique, j'ai connu ce que c'est que la Constitution et j'ai aimé la démocratie. Grandir pour moi est de partir la tête haute.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Sénégal, les autorités cherchent toujours à élucider la mystérieuse maladie de peau qui a affecté 1 millier de pêcheurs dans la région de Dakar. Mais les premiers résultats des examens biologiques sont disponibles. Le point avec Mohamedou Oumfa.
Si le mystère plane toujours sur la maladie, le risque viral et contagieux est écarté selon les autorités. Il n'y a aucun cas secondaire, autrement dit, il n'y a pas de contamination, ce n'est pas une maladie contagieuse et il n'y a pas de risque par rapport à la consommation du poisson, a expliqué le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. D'autres investigations sont en cours, a ajouté le ministre de l'Environnement, Abdou Karim Sall. Selon lui, les prélèvements analysés par un laboratoire n'ont révélé aucune infection chimique ou toxique de l'eau ou des poissons. Il reste à analyser les prélèvements sur les algues, l'apparition de la maladie ayant coïncidé, selon les pêcheurs, avec une prolifération d'algues. Des analyses sont prévues au centre antipoison de l'université Cheikh Diop de Dakar. D'autres analyses sur le carburant et les filets de pêche sont aussi envisagées. La mystérieuse maladie qui se manifeste par des boutons et des abcès sur le visage et les membres des pêcheurs est apparue il y a une semaine. Elle a touché 1004 personnes et une seule reste hospitalisée selon le bilan rendu public hier mardi.
Ici aux États-Unis, Anthony Blinken, le choix du président élu Joe Biden pour diriger la diplomatie américaine, a prôné mardi une coopération internationale pour résoudre les problèmes du monde. Monsieur Biden a présenté l'équipe diplomatique et de sécurité nationale de son futur gouvernement. Abdourahman Dia.
Pour Joe Biden, c'est une équipe qui reflète le fait que l'Amérique est de retour, prête à guider le monde et pas à s'en retirer. Les futurs membres de son gouvernement se sont tous appliqués à réaffirmer le rôle dirigeant des États-Unis sur la scène internationale, promettant de revenir sur l'isolationnisme du gouvernement de Donald Trump. Pour Anthony Blinken, dont la nomination devra être confirmée par le prochain Sénat, les États-Unis ne peuvent pas résoudre seuls les problèmes du monde. Nous devons travailler avec les autres pays, a affirmé le diplomate nommé, soulignant le besoin de coopération et de partenariat avec les pays étrangers. Le président élu américain a aussi présenté son futur émissaire spécial sur le changement climatique, John Kerry, rappelant sa détermination à lutter contre ce qu'il appelle une menace existentielle. La future ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a annoncé pour sa part le retour du multilatéralisme.
La Minute Éco, John Linden.
Au Sénégal, les prix à la consommation ont progressé de 2,1% comparativement au trimestre précédent, selon les données établies par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Les produits alimentaires et boissons non alcoolisées se sont ainsi renchéris de 4%. Le poisson frais, 11,7%. Les légumes frais en fruits ou racines, 27,5%. Et les légumes frais en feuilles, 92%. Les tubercules et plantes sont aussi en hausse de 20%. Le chiffre d'affaires des compagnies aériennes sera en chute de plus de 60% en 2020 par rapport à 2019, selon l'Association internationale du transport aérien. Ces chiffres devraient atteindre 328 milliards de dollars. La crise du COVID-19 continue de terrasser le secteur et a réduit ses coûts d'un milliard de dollars par jour en 2020 et va continuer à accumuler des pertes sans précédent. Elon Musk, le patron du constructeur de véhicules électriques Tesla, est devenu le deuxième homme le plus riche au monde selon le classement de l'agence Bloomberg. La fortune de l'entrepreneur de 49 ans, né en Afrique du Sud, s'est étoffée de 7,24 milliards de dollars sur la seule journée du lundi pour s'établir à 128 milliards de dollars.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Suite de la quatrième journée de la Ligue des Champions ce soir en Europe, le choc de la soirée se jouera à Milan où l'Inter reçoit le Real Madrid. L'autre club italien, l'Atalanta Bergame, ira défier Liverpool à Anfield. Marseille accueille le FC Porto. Le Bayern Munich joue à domicile face au Red Bull Salzbourg. L'Atlético Madrid reçoit le Lokomotiv Moscou. Manchester City se déplace chez les Grecs d'Olympiakos. Le Borussia Mönchengladbach reçoit le Shakhtar Donetsk et l'Ajax Midtjylland. Hier, le Paris Saint-Germain a souffert mais a battu le RB Leipzig 1-0 grâce à un pénalty de Neymar pour conserver son destin en main en vue de la qualification pour les huitièmes. De leur côté, les Red Devils de Manchester United ont fait le travail contre Istanbul Başakşehir 4-1. Le Barça sans Lionel Messi, laissé au repos, s'est qualifié pour les huitièmes en écrasant le Dynamo Kiev 4-0. Derrière, la Juventus Turin a arraché la victoire contre le modeste Ferencváros hongrois 2-1. La Lazio Rome a battu 3-1 le Zénith Saint-Pétersbourg. Et puis après le quadruplé samedi en Bundesliga, le doublé en Ligue des Champions pour Erling Haaland, le prodige norvégien de Dortmund a frappé deux fois contre le club Bruges, battu 3-0, prenant la tête du classement des buteurs avec ses 5e et 6e buts en Ligue des Champions cette saison, soit ses 15e et 16e buts dans cette épreuve en seulement 12 matchs. Dans un groupe E assez déséquilibré, Chelsea du gardien sénégalais Edouard Mendy énorme et le FC Séville ont réussi à sceller leur qualification en s'imposant respectivement à Rennes 2-1 et à Krasnodar 2-1 également. Athlétisme, la Ligue de Diamants, le plus important circuit de meeting d'athlétisme, a dévoilé son calendrier réduit de 15 à 14 manches pour 2021. Après avoir subi une saison quasi blanche en raison de la crise sanitaire, le meeting de Gateshead, qui n'avait pas pu avoir lieu cette année, disparaît, ne laissant qu'un seul rendez-vous au Royaume-Uni à Londres le 13 juillet. La dernière compétition d'envergure avant les Jeux Olympiques de Tokyo reportée d'un an à l'été 2021. Les 13 premières compétitions, dont l'ouverture à Rabat au Maroc le 23 mai, permettront aux athlètes de se qualifier pour la finale disputée sur deux jours à Zurich en Suisse, les 8 et 9 septembre. Le calendrier est strictement provisoire à ce stade et reste sujet à des modifications selon la situation sanitaire mondiale en 2021, précise la Ligue de Diamant dans un communiqué. Le prestigieux circuit a subi de plein fouet la pandémie de nouveau coronavirus cette année et n'a pu proposer que 4 véritables compétitions, Monaco, Rome, Stockholm et Doha, et 3 exhibitions ou meetings réduits, Oslo, Bruxelles et Lausanne.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, la commission électorale a commencé à annoncer les résultats du double scrutin de dimanche. L'opposition affirme qu'il y a eu fraude et de nombreux dysfonctionnements. La CENI s'en défend et les partis de la majorité présidentielle appellent à l'apaisement. Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Aussitôt que la CENI, Commission électorale nationale indépendante, a commencé à proclamer les premiers résultats, l'opposition s'est mise à crier à la fraude et à de nombreux dysfonctionnements. Tahirou Bari, porte-parole de l'opposition.
Tous les observateurs sont unanimes pour dire que la CENI a failli dans l'organisation administrative et pratique des élections du 22 novembre 2020. Toutes choses qui nous amène à émettre de très fortes réserves sur la sincérité et la crédibilité des résultats. Nous exprimons toute notre consternation quant à la manière dont ces organisations ont été faites.
Pour l'Alliance des partis de la majorité, ces dysfonctionnements ne peuvent pas entacher la crédibilité des élections. Maître Benoende Sankara en est le porte-parole.
La BNP convient avec l'ensemble des observateurs internationaux et nationaux qui ont déjà rendu publique leur conclusion que les insuffisances relevées, quoique regrettables, ne sont pas d'une ampleur susceptible d'impacter de manière significative les résultats des scrutins. La PMP invite les candidats de l'opposition à l'apaisement et surtout à poursuivre l'esprit de concertation et de consensus.
De son côté, la commission électorale se défend. Newton Ahmed Barry, président de la CENI.
Conduire une opération sur un pays, sur l'ensemble de pays, le même jour, sur 22 pays à l'étranger, on ne peut pas dire qu'on réussit tout. Mais cela ne nous dédouane pas de reconnaître qu'il y a eu quelques difficultés. Nous ne sommes pas dans un pays qui est normal aujourd'hui. Il y a une difficulté réelle liée à la situation d'insécurité que nous vivons. Mais malgré tout ça, je pense que sur les 351 communes, il n'y a que 15 où nous n'avons pas pu ouvrir.
Selon les analystes et autres observateurs, cette situation est un début de crise post-électorale et le Conseil constitutionnel devrait se prononcer. Pazien est juriste et analyste politique.
Nous assistons donc à un début de crise. On pourrait déjà s'attendre à ce qu'il puisse avoir des pourparlers politiques. C'est le moment pour le Conseil constitutionnel de rentrer en jeu. C'est à présent que le Conseil devrait se saisir donc de cette question pour pouvoir se prononcer sur les régularités ou les irrégularités qu'on a pu constater de part et d'autre et dire est-ce que cela a pu entacher le scrutin. Si tel est le cas, le Conseil donc devrait pouvoir ordonner la reprise du scrutin. Si tel n'est pas le cas, il va falloir donc que le Conseil se prononce.
Les travaux de délibération de la commission électorale se poursuivent. Sur les 15 commissaires, 5 proches de l'opposition ne sont pas présents ce mardi. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Russie affirme avoir conclu un accord avec le Soudan pour construire sur la côte de la mer Rouge sa première base militaire en Afrique. De l'avis des analystes, cela pourrait compliquer les efforts de Khartoum en vue d'améliorer ses relations avec Washington. Reportage de Naba Mohyeddin, récit de Michel Joseph.
L'annonce russe fait état de la signature avec Khartoum d'un bail de 25 ans renouvelable pour une base navale qui sera construite à Port-Soudan. Le président russe Vladimir Poutine dit avoir ordonné son ministre de la Défense à signer cet accord conclu en 2017 avec le gouvernement de l'ex-président soudanais Omar al-Béchir. Une source au sein du gouvernement soudanais a confirmé l'information à la VOA, mais aucun responsable n'a publiquement réagi à l'annonce du gouvernement russe. L'analyste Majdi Kanab évalue l'importance de la base navale en projet.
La présence russe en mer Rouge est une tentative de la Russie d'avoir une présence en Afrique. C'est un objectif tactique et non stratégique pour irriter les États-Unis dans leur zone d'influence et faire contrepoids à la pression américaine sur les zones d'influence russes comme la Syrie et la Libye spécifiquement.
La future base russe en mer Rouge aura de l'espace pour 4 navires, y compris des vaisseaux à propulsion nucléaire, et abritera jusqu'à 300 marins et employés. Cameron Hudson est chercheur au Centre pour l'Afrique du Conseil Atlantique. Il est d'avis que l'accord entre Moscou et Khartoum va nuire les relations américano-soudanaises.
Cette décision n'a aucun sens. Le Soudan et l'Occident sont sur le point d'entamer un nouveau chapitre dans leur relation avec de nouveaux alliés à même d'aider le Soudan dans sa transformation politique, économique et sécuritaire. Permettre à un autre pays de prendre pied stratégiquement en mer Rouge sape le virage du Soudan vers l'Occident, de même que la présence d'une puissante force dans le pays pourrait subvertir les objectifs de la révolution.
Il a souligné aussi la possibilité que l'annonce de Moscou s'inscrit dans le cadre d'une propagande que le Soudan a peur de contester. Khartoum a un gouvernement militaire et civil depuis août 2019. Il a annulé ou révisé certains accords signés par le régime d'Omar al-Béchir, y compris ceux avec la Turquie, le Qatar et les Émirats arabes unis. En mai 2009, les militaires soudanais ont approuvé la construction par la Chine d'une ligne de chemin de fer entre Port-Soudan et l'État du Nil Bleu pour un coût de 3 milliards de dollars. L'analyste Majdi Kanab pense que l'accord signé par Moscou pour une base navale est le signe d'une lutte d'influence de la Chine et de la Russie en Afrique. Pour l'heure, la position des États-Unis par rapport au projet russe au Soudan n'est pas claire. Le mois dernier, Washington a convenu de retirer le Soudan de sa liste de pays soutenant le terrorisme. Cette mesure pourrait permettre au Soudan d'attirer les investisseurs et d'obtenir des institutions internationales comme la Banque mondiale les prêts dont il a tant besoin.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le président élu Joe Biden a annoncé lundi ses choix pour son futur gouvernement, dont Anthony Blinken, un proche conseiller et ancien secrétaire d'État adjoint, pour être le prochain chef de la diplomatie américaine. Cindy Sain revient sur ses nominations. Le récit est de Lionel Gahima.
Iran made a fundamental choice.
Anthony Blinken, 58 ans, a été secrétaire d'État adjoint sous l'ancienne administration Obama-Biden. Il conseille le président élu Joe Biden depuis 2002. Il a fait ses études secondaires à Paris. Il est aussi un fervent partisan de l'OTAN et d'autres institutions multilatérales. S'il est confirmé par le Sénat, il succédera à Mike Pompeo aux commandes du département d'État. Blinken a dirigé la réponse américaine à une crise mondiale des réfugiés et en 2016, il est apparu dans l'émission américaine pour enfants Sesame Street pour expliquer qui sont les réfugiés et comment nous pouvons tous apprendre les uns des autres.
Ce sont des gens qui ont dû quitter leur maison. Grover, pouvez-vous imaginer à quel point il est difficile de quitter sa maison?
To have to leave your home?
Non, je ne peux pas. Je ne voudrais jamais quitter Sesame Street.
Certains analystes disent que sa première priorité sera de réparer les relations et revenir sur les accords que le président Donald Trump a abandonné, comme l'accord sur le nucléaire iranien. Mark Simakowski de l'Atlantic Council.
Je pense que sa première et sa plus grande priorité sera de restaurer la perception des États-Unis en tant qu'allié et partenaire de confiance dans le monde. Je pense qu'il va vouloir consolider des relations qui ont été endommagées. Essentiellement, vous savez, le mantra est « nous sommes de retour ». Vous ramenez les États-Unis dans les accords de Paris sur le climat en essayant de trouver un moyen de prolonger potentiellement le nouvel accord START.
Et l'ancien secrétaire d'État John Kerry, 76 ans, s'il est confirmé par le Sénat, fera son retour au gouvernement en tant qu'émissaire spécial du président américain sur le climat. Dans une autre annonce, l'africaine-américaine Linda Thomas-Greenfield, diplomate chevronnée des 68 ans, qui a été secrétaire d'État adjointe pour l'Afrique, deviendra l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU.
Mais ce que j'ai, je transporte avec moi. Les espoirs et les rêves de ma mère. Elle m'a appris à un très bas âge que je pouvais faire face à n'importe quel défi ou n'importe quelle adversité sur mon chemin.
Alejandro Mayorkas, né il y a 60 ans à La Havane, sera le premier hispanique à diriger le ministère de la Sécurité intérieure, qui supervise notamment les questions d'immigration. Également sélectionné, Avril Hines, 51 ans, comme directrice du renseignement national, un poste jusqu'ici occupé par des hommes. Enfin, Joe Biden a nommé un autre proche collaborateur, Jake Sullivan, 43 ans, comme son conseiller à la sécurité nationale.
Les présidents américains changent souvent la politique du gouvernement par des décrets pour contourner le Congrès et le processus législatif. Le président Donald Trump s'est fortement appuyé sur ce moyen et le président élu Joe Biden a promis de faire de même. Reportage de Mike Sullivan, repris ici par Abdourahman Dia.
C'est par un décret en janvier 2017 que Donald Trump a temporairement limité l'immigration en provenance de pays à majorité musulmane qui, selon lui, étaient des foyers de terrorisme. Cette décision a été largement critiquée et rapidement bloquée par les tribunaux, déclenchant des batailles juridiques. Une mesure moins radicale a ensuite été confirmée, mais elle sera probablement annulée par Joe Biden, qui prendra fonction le 20 janvier. John Woolley de l'American Presidency Project.
Parce que presque n'importe quel décret peut être annulé par une autre décision, nous pouvons être certains que Joe Biden ne va pas y aller de main morte en termes de décret.
Le premier président George Washington a publié le premier décret présidentiel donnant des instructions au ministère. Abraham Lincoln a libéré des esclaves dans la proclamation de l'émancipation avec deux décrets distincts pendant la guerre civile. Franklin Roosevelt a signé plus de 3700 décrets, plus que tous les présidents. Le pouvoir de prendre des mesures unilatérales n'est pas précisé dans la Constitution, qui dit simplement que le président est en charge de la branche exécutive du gouvernement. Kenneth Meyer de l'Université de Wisconsin.
Ces décrets sont une application naturelle de la large attribution du pouvoir exécutif qui est inscrite dans la Constitution.
Un des décrets de Franklin Roosevelt, plus tard largement critiqué, a confiné les Américains d'origine japonaise dans des camps pendant la Seconde Guerre mondiale. Trump a également utilisé des mesures exécutives pour mettre en œuvre des changements politiques controversés, comme le retrait de l'accord de Paris, contournant ainsi le Congrès. Kim Whale, de la faculté de droit de l'Université de Baltimore.
Sur la séparation des pouvoirs, les questions constitutionnelles sont désormais arrachées de l'actualité chaque jour.
Au cours de son mandat, Trump a publié 55 décrets, dont un autorisant la construction d'un mur à la frontière sud. Parfois, les différentes branches du gouvernement ont bien collaboré. La Cour suprême, par une décision historique, et le président Dwight Eisenhower, par décret, ont intégré les écoles pendant les années 50. Mais parfois, les présidents agissent seuls, suscitant des conflits avec les autres branches du gouvernement. Trump utilise ses deux derniers mois au pouvoir pour laisser sa marque sur le gouvernement en installant des loyalistes à des postes clés et en émettant des directives.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Seloudia et de Michel Joseph à la mise en onde.